France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Les discours masculinistes prennent une ampleur croissante sur les réseaux sociaux et marquent une polarisation entre les femmes et les hommes des jeunes générations en matière de vote, par exemple, et notamment. Alors ce soir, un débat et plusieurs questions. Peut-on parler d'une guerre des sexes ou de guerre idéologique? Peut-on symétriser la parole féministe et la parole masculiniste? Que dit le courant masculinisme de la masculinité contemporaine et des rapports entre femmes et hommes depuis MeToo? Trois invités pour nous éclairer ce soir. Pauline Gontier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes autrice, vous avez publié votre second roman en cette rentrée littéraire 2025 aux éditions Les Léonides. Il s'intitule Parthenia et il s'agit d'un roman noir qui se déroule dans les milieux des masculinistes. À vos côtés, Florence Porcel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes autrice, vous avez notamment publié Honte en un seul mot aux éditions J.C. Lattès. C'était en 2023. À vos côtés, Vincent Coqueberbe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et essayiste, vous avez publié ce mois-ci La guerre de sexession, c'est aux éditions Arquet. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Question du soir.
On est dans une société, voilà. On est civilisé, on a construit une société, on a bâti une société. Tu peux être une femme et avoir des avantages dans un certain contexte. Que l'homme t'a donné d'ailleurs, après avoir construit la société. Mais à la base même, être une femme, tu n'as aucun avantage. Tu es plus faible, donc tu cours moins vite, tu es moins forte, tu es plus émotive. Ton temps de réaction aussi, par la même occasion, n'est pas le même que nous. Et en plus de ça, tu donnes naissance. Donc pendant plusieurs mois, tu es faible. Durant les deux premières années de sa vie, tu es obligé d'allaiter ton bébé parce que sinon, il meurt. Donc il n'y a que des désavantages à être une femme à la base. C'est dur à entendre, ça fait mal, mais c'est la vérité. Et c'est ce que les féministes n'ont pas compris.
Les propos de l'influenceur masculiniste Alex Hitchens, il date de décembre 2024. C'est un personnage très suivi sur les réseaux sociaux. 400 000 personnes le suivent quotidiennement sur YouTube. Pauline Gontier, vous qui vous êtes immergée pour écrire votre dernier livre dans ces mondes masculinistes, comment est-ce que vous analysez ce discours-là? Est-ce que dans le fond c'est l'extrémité du spectre masculiniste ou bien c'est un discours assez répandu dans les marches que l'on décrira ce soir?
Non, je le trouve extrêmement commun pour le discours masculiniste et presque policé. Bon, il contient l'essentiel
presque policé.
C'est-à-dire que là, il contient. Il parle d'une essentialisation des femmes. Voilà, c'est la nature qui veut que les femmes soient plus faibles. Et donc, il ne le dit pas ainsi, mais donc soumises aux hommes. Ce que j'ai pu voir en passant du temps sur les forums et en regardant des vidéos de masculiniste est bien plus violent que ça. C'est-à-dire que ça, c'est le constat de départ qu'il nous livre là et qui met tout le monde d'accord. Derrière, tous les masculinistes d'accord, évidemment. Derrière, moi, j'ai lu des appels au viol, des propos extrêmement haineux, extrêmement violents à l'égard des femmes qu'on n'entend pas dans cette vidéo-là. Donc, c'est absolument pas l'extrémité du spectre des masculinistes.
Et cette violence que vous avez trouvée en enquêtant, elle parlait de viol, d'appel au viol. Elle était exprimée par qui? Est-ce que vous le savez ou est-ce que tout s'exprime justement sous pseudonymat?
C'est justement une des difficultés, je pense qu'on en reparlera, pour la régulation ou le fait d'appréhender ce mouvement, c'est que tout est sous l'anonymat. Et je pense que l'anonymat et les réseaux sociaux qui permettant cet anonymat conduit à une immense violence. Donc tout est sous pseudo et je ne sais pas qui est derrière. Donc c'est pour ça que j'ai mené ensuite des études, lu des anthropologues, mais il est très difficile de savoir qui se cache derrière et il se trouverait que finalement c'est très répandu et que derrière ce discours-là se cachent des hommes de tout âge, de toute classe sociale. Donc c'est assez transverse en réalité.
Exercice de définition avec vous, Florence Porcel, on parle de masculinisme, de quoi s'agit-il? Quelle est votre définition pour commencer des masculinismes, parce qu'il y en a plusieurs formes, ils ont plusieurs visages.
Ils ont plusieurs visages, mais ils visent toutes une même idéologie, c'est de l'antiféminisme. Voilà. Les masculinistes estiment que la femme n'est pas l'égale de l'homme et ils se regroupent pour que jamais cette égalité advienne. Donc ça, c'est une base. Donc tout discours antiféministe est masculiniste.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, dans le fond, aujourd'hui, dans les tendances que l'on décrit aujourd'hui?
Ce que je distinguerais, moi, aujourd'hui, c'est les porte-voix du masculinisme, comme les hommes politiques, comme Trump peut l'être, ou comme Elon Musk peut l'être, les entrepreneurs culturels du masculinisme, qui, eux, en font un business, et en fait, s'adressent à une communauté, et donc c'est quelque chose qui est monétisé, et qui leur apporte, finalement, des gains, et toute une masse un peu plus floue, de jeunes ou de moins jeunes garçons qui, à un moment donné, pour différentes raisons, vont se radicaliser ou, du moins, être très perméables à ce type de discours.
Pauline Gontier, quand est-ce que les choses changent et quand est-ce que le masculinisme contemporain se dessine ?
Alors, je pense quand même qu'il y a une bascule autour de MeToo, parce que quand on va sur ces forums, bon, déjà, ce mouvement-là est souvent incriminé et désigné. Un des cris de ralliement, c'est « Your body, my choice », « Ton corps, mon choix », qui est aussi vraiment un écho direct au slogan de MeToo. Moi-même, j'ai fait une vidéo pour Brut il y a quelques jours. Quelqu'un est venu écrire cette phrase sous ma vidéo. Donc, c'est vraiment... Je pense qu'il y a quand même... MeToo marque un tournant parce que je crois qu'effectivement les masculinistes, depuis Derry l'explique, le sociologue québécois, il y a un backlash dans les années 80, il y a une réponse directe au mouvement féministe, et puis là, ça prend une autre ampleur. Alors, je pense qu'il se passe quelque chose au moment de MeToo, même si je trouve très intéressant l'idée que dans un moment de crise sociale, économique, on cherche des boucs émissaires et que les femmes ont souvent été des boucs émissaires assez classiques. Donc voilà, ce qui nourrit aussi ce courant-là.
Si je décris, Florence Porcel, l'archétype que l'on dessine souvent dans la presse, dans les médias, de ces jeunes masculinistes, de ces jeunes incels, ce sont deux jeunes paumés, pour reprendre l'expression de Pauline Gontier, deux jeunes paumés qui ont pris comme une claque dans la figure le mouvement MeToo parce que leurs propres valeurs se sont alors décomposées et en réaction, en backlash, en mauvais français, eh bien, ils assument aujourd'hui d'être masculinistes et d'exprimer des phrases « Votre corps m'appartient » en quelque sorte. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie du backlash, Florence Porcel ? Est-ce qu'elle permet d'expliquer peut-être la résurgence, le renforcement de ces discours masculinistes aujourd'hui ?
Bah, moi, ce que je constate, en tout cas, c'est que les masculinistes, et le masculinisme en général, ne se base que sur des sentiments, des ressentis, de perte de droits des hommes par rapport aux droits des femmes, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est absolument rien. Qui a le pouvoir politique dans le monde ? Ce sont des hommes. Qui a le pouvoir économique dans le monde ? Ce sont les hommes. Qui en fait, concentre tous les pouvoirs ? Le pouvoir médiatique, ce sont des hommes. Qui voit-on en extrême majorité dans les médias ? Ce sont des hommes. Enfin, je veux dire, tout le réel montre que ce sont les hommes qui ont le pouvoir, toujours. Et en fait, le masculinisme a l'impression que les hommes perdent leurs droits et que ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir, alors qu'il n'en est rien. Et autant le féminisme se base sur des faits et sur des constats qui sont mesurés par des études scientifiques, et qui se bat pour que au contraire, les femmes aient des droits, et pas seulement les femmes, hein, mais aussi les personnes racisées, les personnes LGBTQIA+, etc. Mais les masculinismes, au contraire, se basent sur des sentiments. Et c'est ça qui est vraiment très étonnant, et surtout dans cette époque où on perd un petit peu contact avec le réel, où il y a des faits alternatifs, où il y a des vérités alternatives, et tout ça, en fait, je pense, se mêle.
Pauline Gontier, ça correspond à ce que vous avez trouvé à la lecture de ces forums, justement, le sentiment que ces hommes perdent une partie de leur pouvoir, en tout cas, c'est leur sentiment ?
Oui, ce sont seulement des sentiments, mais dans la communauté masculiniste, ils essayent d'en faire de la science, c'est-à-dire que quand on va sur les forums masculinistes, il y a énormément, et c'est ça qui m'a surpris et que je reprends quasiment mot pour mot au départ de mon livre, des rubriques science, je parle beaucoup en anglais parce que leurs termes sont souvent en anglais, où ils détournent des articles scientifiques au profit de leur théorie. Et ils avancent beaucoup de chiffres, pareil, là encore, extraits de leur contexte. Donc ils essayent de scientificiser leur ressenti, comme vous dites.
Alors face à cela, des faits, des chiffres bien bien réels en France. D'après le baromètre annuel sur le sexisme, 52% des hommes de 25 à 34 ans considèrent que l'on s'acharne sur les hommes. Et 22% des 15-24 ans et 25% des 25-34 ans considèrent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Vincent Coquebert, face à ces chiffres, est-ce que l'on peut dire, assumer même que ce mouvement masculiniste concerne d'abord et avant tout les jeunes hommes ?
Mais il concerne principalement les jeunes hommes, parce qu'on voit quand même des écarts entre les différentes cohortes, avec un discours encore plus radical et chez les plus jeunes.
Mais c'est paradoxal, pardonnez-moi, parce que l'on pourrait se dire, dans le fond, c'est la nouvelle génération qui connaît mieux MeToo, qui connaît mieux justement les sujets de lutte contre le sexisme, qui connaît mieux les enjeux de violence sexiste et sexuelle.
Bah, en fait, oui, je pense que ce qu'on a observé, malgré tout, dans les études sociologiques des années 80 jusqu'à la fin des années 2000, c'est plutôt une homogénéisation des valeurs entre hommes et femmes. Et les hommes disaient même qu'ils se sentaient avec autant de qualités qui étaient dites féminines et vice-versa. Et on a observé donc une polarisation au début des années 2010 qui va un petit peu, moi, avec ce que j'avais appelé la civilisation du cocon, qui est vraiment ce moment en fait historique où on est sur un repli qui est à la fois physique, on le voit bien avec ce culte du corps, avec une certaine passion pour la vie domestique aussi, d'une socialisation de plus en plus online, mais aussi un repli qui est à la fois idéologique, psychologique et affectif. Et il y a quelque part une sorte de retour à des modèles archaïques, qui sont des modèles finalement le modèle rassurant, qui quelque part va me donner l'impression en fait de comprendre un petit peu le monde. C'est aussi pour ça, c'est ça qui est très intéressant dans les études aux États-Unis sur les masculinistes, c'est qu'on se rend compte que ce sont eux, en fait, les plus masculinistes qui disent, en fait, qu'ils sont quasiment les plus heureux, les plus épanouis dans la vie. Parce qu'ils ont, une grille de lecture, évidemment, totalement fallacieuse et mortifère, mais claire, quelque part, qui ne sont pas dans le tiraillement du questionnement sur leur socialité, sur leur relation à l'autre, sur l'altérité. Ils savent qui est quelque part, qui est leur ennemi tout désigné, et ils se disent, bon, bah, moi, mon rôle d'homme, en tout cas, il est clair, il est comme ça. Donc, c'est aussi voilà une dynamique finalement de la, on va dire, d'une sorte de pauvreté existentielle qui montre bien qu'en fait ce repli là c'est voilà qui est un peu postmoderne dans le côté ultra technologique parce qu'il se passe sur les réseaux et très archaïque parce qu'il renoue avec des valeurs qu'on pensait être passées.
Ces cocons sont très perméables quand même parce qu'aujourd'hui un certain nombre d'hommes politiques d'extrême droite et pas seulement en France, Zemmour l'a fait pendant sa campagne, mais ont très bien identifié qu'il y avait là un réservoir de vote en leur faveur et en se fondant sur peut-être des frustrations, sur des bouleversements qu'ont pu induire MeToo et l'interrogation de la notion du consentement qui a sûrement désarçonné beaucoup d'hommes. Il y avait potentiellement un vote réactionnaire à alimenter et qui n'était plus seulement masculiniste mais xénophobe, homophobe.
Mais en quoi cela remet-il en cause, pardonnez-moi, la théorie du cocon? Après tout, on peut se dire ces responsables politiques ont identifié quelques cocons bien clairs, bien enfermés dans lesquels ils peuvent, j'allais dire, déverser leur discours pour tenter de les atteindre.
Parce que dans cocon, simplement parce que pour moi l'image est assez protectrice du cocon est imperméable, alors que non, il est possible par des stratégies médiatiques, ça a été assez bien expliqué et documenté pour la campagne de Zemmour en 2000, pour la campagne présidentielle de 2022, où il y a eu sur Twitter un activisme de ses proches pour faire monter ses idées. Donc, ce sont des cocons pas très protecteurs au fond pour les gens qui les habitent et très perméables à certaines stratégies politiques. Qui ne se cache pas. Et c'est ça, et je rejoins les propos de Rokhaya Diallo, qui me fait peur, moi. C'est pas seulement le masculinisme, c'est son instrumentalisation par des figures politiques puissantes dans beaucoup d'États du monde.
Vincent Coquebert, une réaction, puisque c'est vous qui parlez de cocon, en l'occurrence.
Oui, bah je suis tout à fait d'accord sur cette idée. En fait, moi, ce que j'observe, c'est aussi une métapolitisation en fait du sexe et de l'intime.
Qu'est-ce que ça veut dire une métapolitisation?
C'est que les visions de la féminité, les visions de la masculinité, les visions de l'amour, en fait, deviennent aujourd'hui un peu des marqueurs politiques aussi quelque part. Et le slogan des années 70, qui est Intimate is Political, aujourd'hui s'est aussi fait approprié par les néoconservateurs dans le sens d'une contre-politisation de l'intime, que ce soit Trump ou Orban, en fait, vont utiliser finalement ces leviers-là pour non plus être dans une logique d'une dynamique d'émancipation, mais une dynamique de sanctuarisation. Et sur la différenciation des sexes, sur des rôles très, très précis. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Pauline Gontier quand elle dit que finalement ces cocons ne sont pas si imperméables à la réalité. C'est qu'aujourd'hui, ils entrent dans une dialectique où l'intime se politise, certes, mais la politique se sexualise aussi. Quelque part.